Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Cette émission du mois de décembre n'a pas pu être enregistrée dans les locaux de Radio Campus Paris, fermés pour cause de reconfinement. Nous repoussons donc encore une fois notre épisode spécial Blade Runner, les contraintes techniques liées à l'enregistrement à distance ne nous permettant pas de retrouver l'énergie des débats habituels. Nous sommes d'ailleurs désolés du son assez médiocre de la plupart de nos micros, ce qui, on l'espère, ne vous gênera pas trop lors de l'écoute de cette émission. Tout comme lors du premier confinement, nous avons donc décidé d'adopter un format un peu spécial sous la forme d'une playlist de musique de film. Vous allez donc pouvoir écouter 20 morceaux tirés d'œuvres qui nous tiennent particulièrement à cœur, que nous avons choisis et que nous allons vous présenter plus ou moins longuement, parfois accompagnés d'archives, d'autres fois présentés dans des duels de musique similaires. Le collectif Vitamine Ciné, quatuor cinéphile, est ce soir au complet bien qu'éloigné, puisque je suis accompagné de Louis, de Lucas et d'Adeline. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaitions dédier cette émission au grand Ennio Morricone qui nous a quittés cet été et dont certaines compositions encadreront l'émission. Le générique d'ouverture habituel a donc été remplacé par l'extase de l'or du légendaire Le Bon, la Brute et le Truand, mais c'est une toute autre ambiance qui va ouvrir le bal de cette playlist du dimanche, comme va nous le présenter Lucas.
C'est la musique événement de cette fin d'année cinématographique 2020. What a Life de Scarlett Pleasure vient magnifiquement embellir scène de danse et de beuverie du dernier film de Thomas Vinterberg, Drunk. Je vous propose de poursuivre notre parcours musical par une chanson des Beatles, composée pour le génial film d'animation Yellow Submarine, une plongée délirante dans l'univers du groupe. Pour ce film, les Beatles ont composé 4 chansons originales, dont Hey Bulldog, qui, je dois le dire, a beaucoup de chiens. Big man, walking in the park. Big man, frightened of the dark. Some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me.
Considéré comme trop turbulent, moqueur et versatile, le groupe The Kinks, mené par le charismatique leader Ray Davies, est resté au pied du podium des charts britanniques qui a consacré les Beatles, les Rolling Stones ou encore les Who. Pourtant, ces londoniens tissèrent une œuvre marquée par une ingéniosité musicale et une élégance d'écriture rare. Ils apparaissent ainsi comme des pionniers dans au moins 5 genres. Le rock garage, la chronique sociale, les fresques nostalgiques, les comédies musicales fantasques, voire le rock FM triomphant dans les années 80. Pas étonnant donc que l'on retrouve un titre des Kinks dans au moins 51 films. Et je tire cette précieuse information de la liste Sens Critique d'un certain Acide, que je remercie s'il nous écoute. C'est donc un clash entre deux genres d'un même groupe que je vais vous faire vivre maintenant. Mon premier concurrent est This Is Time For Tomorrow, que vous avez pu entendre dans Les Amants Réguliers de Philippe Garrel sorti en 2005, et que je vais vous faire écouter dans la version utilisée par Wes Anderson, un autre grand fan des Kings, dans The Darjeeling Limited en 2007. Son concurrent s'est également fait entendre en 2007 puisqu'il s'agit de A Well Respected Man, qui a rythmé le film Juno avec Elliot Page et Michael Cera, ou plus récemment dans la version française de Petula Clark, dans le film de Mona Choukri, La femme de mon frère, sorti l'année dernière. Alors, entre fable nostalgique et chronique sociale, que le combat commence. That's my train.
He gets up in the morning, then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time, 'cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the mane, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills at every suave young man, 'cause he's all so good. And he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.
Et changeons de décennie pour aller dans les années 70. Avant que Louis ne nous présente une archive sur Vladimir Cosma, je vous propose d'écouter une des musiques emblématiques du compositeur français. Il s'agit du générique d'un film dont le titre m'intriguait beaucoup quand j'étais enfant, Le Grand Blond avec une chaussure noire.
Du grand blond avec une chaussure noire est reconnaissable entre mille. On le doit au génie de Vladimir Cosma. mais aussi à sa capacité à faire triompher ses idées, puisqu'au départ, Yves Robert, le réalisateur du film, avait tout autre chose en tête. C'est ce que le compositeur confie en 2007 à Benoît Basirico pour Cinésic, dans un bel entretien à retrouver dans son intégralité sur cinésic.fr.
C'est-à-dire que j'ai essayé, depuis mes débuts, d'avoir une couleur spécifique pour chaque film. En plus de la mélodie, les réalisateurs, souvent, ils ont un rapport à la musique référentiel. Quand j'ai fait Le Grand Blanc avec une chaussure noire, l'idée c'était de faire un pastiche de James Bond parce qu'il y avait l'espion. Parce que je déteste faire des pastiches à la manière d'eux. Je trouve que il faut faire quelque chose d'original et trouver une idée. Je ne me vois pas construire tout un film sur un pastiche de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Je n'aime pas ce qu'on appelle les clins d'œil et les pastiches et des choses comme ça. Pour le fonds de commerce musical des comédies, ça a été souvent ça. C'est-à-dire que c'était où on se moque un peu de la musique, des effets un peu grossiers, des glissandos de xylophone ou des choses comme ça. Ou alors un pastiche de quelque chose qu'on déforme un peu, qu'on fait. Bon, j'ai essayé d'éviter, j'ai proposé quelque chose qui était complètement différent, une flûte de pan avec un cymbalum qui n'avait rien à voir avec James Bond et tout ça, en partant de l'idée que l'espion vient du froid.
Un espion qui vient du froid, c'est justement ce que nous allons écouter tout de suite dans le deuxième duel de l'émission. Il s'agit en effet du thème principal d'Au service secret de Sa Majesté, un James Bond sorti en 1969, qui fait partie de mes films préférés de cette saga au long cours. En plus de scènes mémorables, telle la poursuite en ski, qui se verra reprise dans le Inception de Christopher Nolan, c'est aussi l'épisode dans lequel l'espion se marie, un bonheur qui, vous vous en doutez, sera de courte durée. Et si on accepte le hors-série parodique Casino Royale, sorti en 67, c'est le premier James Bond sans le regretter Sean Connery, puisque c'est l'acteur George Lazenby qui endosse le fameux costume. Un changement de comédien d'ailleurs souligné, avec ironie, par une réplique juste avant le générique que vous allez pouvoir entendre. Je cite « Ceci n'est jamais arrivé à l'autre type ». Et à l'orchestre de cuivre de John Barry, j'ai voulu faire s'enchaîner la musique du film de Pixar Les Indestructibles, composée par Michael Giacchino. Un thème qui rend explicitement hommage à la musique d'Au service secret de Sa Majesté, vous allez pouvoir l'entendre en comparant les deux à la suite, mais un thème qui a quand même son identité propre, avec une petite touche d'espièglerie. Mais avant la famille des super-héros, place donc à un célèbre espion anglais.
This never happened to the other fella.
We'll be right back.
Merci Nicolas pour ce duel d'espionnage, de cap et de smoking. C'est un tout autre smoking d'ailleurs dont je vais vous parler à présent, puisqu'il s'agit du No Smoking Orchestra, un groupe de rock dont le réalisateur, Emir Kusturica, est le bassiste depuis 1986. En 1998, alors qu'il prépare le synopsis d'un documentaire sur la musique Zigan, il entend une anecdote à propos de la mort d'un grand-père juste avant un mariage dont le corps aurait été mis dans la glace pour que la cérémonie ait lieu. Le projet se transforme finalement en un long métrage de fiction qui devient Chat noir, chat blanc, dont un des titres de travail était Musique acrobatique. La plus connue des musiques de ce film est sans doute Bupa Mara, qui, il est vrai, est assez acrobatique. Je vous en laisse juger.
Charle, Bupa Mara kocha počinel, Peiro malen ašunen, Echaloren kugle zurale, Bupa Mara čajori, Baro grga vojsi očili.
Čingi ringi Bupa Maro ciknije, Šužije, ajde mori vojro meca.
Charle, Bupa Maru vojte arese, Peiro male našunen, Echaloren kugle šukaren, Život osiriki špil, Tradelorom ironi.
Après le smoking de James Bond et le No Smoking Orchestra, il est encore question de costume. Celui enfilé par Jake Blues et Elwood Blues, les Blues Brothers. À l'origine de ce film, un duo, composé de Dan Aykroyd et de John Belushi, qui ponctue les soirées des téléspectateurs du Saturday Night Live d'apparitions musicales pleines d'humour. On est à la fin des années 70, et la volonté de prolonger l'aventure télévisuelle des Blues Brothers sur scène devient alors rapidement une évidence. Le pas est encore franchi lorsqu'il s'agit cette fois, en 1980, de faire un film dans lequel les Blues Brothers reforment leur groupe et donnent des concerts au profit de l'orphelinat où ils ont été élevés. Le projet filmique est confié à John Landis, qui réalisera par ailleurs deux clips de Michael Jackson dans la suite de sa carrière. Pour signer l'une des meilleures bandes originales du cinéma, le film des Blues Brothers réunit des icônes de la musique afro-américaine telles que Ray Charles, Aretha Franklin, Cab Calloway ou encore James Brown. Tous ces artistes guideront, dans le film, Jack et Elwood Blues dans leur aventure de récolte de fonds. La levée se fera au cours d'une grande représentation finale. Alors, mesdames et messieurs, prenez place pour le grand concert des Blues Brothers. Ils interprètent pour vous « Everybody needs somebody to love ».
Everybody needs somebody. Everybody.
changement d'ambiance après la joie de vivre des Blues Brothers. Il était une fois dans l'Ouest et sans doute le travail le plus connu d'Ennio Morricone, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de l'inclure en cette émission. C'est le titre Final Duel que je vous présente, un morceau qui rythme le climax du film de Sergio Leone. En un jeu de regard, un flashback et enfin un coup de feu, la scène s'impose comme un des summums de la filmographie du cinéaste et de la discographie de son compositeur fétiche. 2 minutes pendant lesquelles le temps se dilate pour illustrer un souvenir douloureux avec un homme pendu à une cloche dont la vie tient littéralement sur les épaules de son petit frère. Musicalement, Morricone ajoute des couches d'instruments jusqu'à ce que la tension atteigne son paroxysme. À la complainte de l'harmonica, viennent ainsi très vite s'ajouter un trombone, puis des violons. Ensuite, et c'est à ça qu'on reconnaît la modernité et le génie de Morricone, des accords de guitare électrique résonnent. Petit à petit, c'est tout un orchestre qui se réveille. Et enfin, des chœurs s'en mêlent, soulignant le caractère divin, mystique, qui émane de la scène. Lorsque les cloches résonnent, enfin, le pendu meurt, le frère tombe, et en un plan se venge, des décennies plus tard. Le spectateur sait qu'il reverra rarement une scène aussi intense, et le cinéma lui-même ne sera plus jamais tout à fait le même. Et après tant d'émotions et de beauté, je ne peux céder la parole qu'à celui qui a composé ce sommet de l'histoire du cinéma. Voici donc un court extrait d'Ennio Morricone, au micro de l'RTS, lors d'une émission qui lui était consacrée en 1988. L'occasion pour le compositeur de légende d'évoquer la musique que nous venons justement d'écouter.
Le symbole de l'harmonica, qui est un symbole de mort, symbole très important, est né donc avant que Sergio Leone n'écrive le scénario et toute l'histoire. J'ai également enregistré tout de suite avec l'orchestre. Je me souviens même que une des rares fois où j'ai été sur le tournage, au cours des premiers jours, et les deux morceaux principaux étaient déjà prêts, et il les a envoyés, il les a fait écouter aux acteurs, je me souviens de Cardinal et d'autres, qui écoutaient pendant qu'il jouait ses scènes. On peut faire beaucoup de films, mais si on n'écoute pas la musique pendant ce film, c'est pratiquement inutile que le compositeur écrivent et fassent des efforts, alors que Sergio Leone, sans sacrifier quoi que ce soit à sa poésie, et je dirais même en la développant, il a mis en évidence ce que j'ai écrit, et c'est très important.
Je vous propose de poursuivre l'émission avec la musique Middle of the World, tiré de la bande originale du film Moonlight, composé par Nicholas Britell et nommé pour l'Oscar de la meilleure musique de film en 2017. Cet extrait est tiré de l'une des scènes marquantes du film. Dans celle-ci, le mentor Juan apprend au jeune Chiron à nager, comme un symbole d'indépendance. Au moment de sa vie où, entre deux eaux, il doit décider de qui il veut être.
Give me a hand. Let your head rest in my hand. Relax. I got you, I promise. I'm not gonna let you go. Hey man, I got you. There you go. 10 seconds. See that right there? You're in the middle of the world, man. That's good. You like this? More athletic. There you go. Yeah, I think you're ready. Think we got a swimmer.
You wanna try?
You ready to swim? Go.
Yeah, man.
Confrontons maintenant deux manières de susciter la tension et l'effroi dans le cinéma d'horreur. La première est celle de Suspiria. Dario Argento y fait une fois de plus appel au groupe de rock Goblin pour composer le thème principal du film. Celui-ci est fait de sonorités disparates qui jouent sur les genres et, bien qu'angoissant, nous ne boudons jamais notre plaisir à l'entendre tout au long du film. La force du thème réside surtout dans le murmure inhumain qu'on y entend et qui nous donne l'étrange impression d'être cernés, faits comme des rats. À cela s'oppose la musique absolument glaçante de Michael Levy sur le chef-d'œuvre de Jonathan Glazer, Under the Skin. Il est difficile de mettre des mots sur cette partition que son compositeur a intitulée Lipstick to Void en référence au rouge à lèvres que porte l'héroïne du film, tueuse d'hommes méthodique et froide. Sur son rythme cardiaque, Lipstick to Void provoque une sorte de paralysie qui ne cesse de placer le spectateur-auditeur dans une incompréhension sensorielle et cruelle face à ce qui l'entoure. Mais avant cela, je vous laisse donc savourer l'ambiance entraînante et mystique de Suspiria.
Chanson écrite par Richard O'Brien, Touch It, Touch It, Touch Me a pour principal thème la frustration sexuelle. N'ayant aucune allusion à faire avec une certaine pandémie mondiale, je vous laisse avec ce titre du Rocky Horror Picture Show de 1975. Then if anything grows, while you pose, I'll oil you up and drop you down.
just one small fraction of the main attraction. You need a friendly hand. Oh, I need action. Touch it, touch it, touch it, touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night.
Touch it, touch it, touch it, touch me.
I wanna be dirty.
Il est impossible de consacrer une émission aux musiques de films sans parler de Jacques Demy. Commençons donc avec Les Parapluies de Cherbourg, magnifique film chanté, sublimé par les compositions de Michel Legrand. L'une d'elles, d'une tristesse accablante en même temps que d'une beauté fatale, intervient dans la première moitié du film lorsque Geneviève, incarnée par Catherine Deneuve, apprend que Guy, l'homme qu'elle aime, quant à lui joué par Nino Castelnuovo, est mobilisé en Algérie pour une durée indéterminée. Les deux amoureux comprennent que leur couple est plus que jamais menacé et que, peut-être, leurs corps plus jamais ne se toucheront.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas.
Tu sais bien que ce n'est pas possible.
Je ne te quitterai pas.
Mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi tu m'attendras.
Deux ans de notre vie.
Ne pleure pas.
Pour poursuivre avec Jacques Demy, je vous propose d'écouter une archive de 1963 où le réalisateur évoque l'importance de la musique dans ses films.
Jacques Demy, que pensez-vous personnellement de la musique d'un film ? Ce que doit représenter la musique d'un film pour vous ?
Bien, la musique d'un film, c'est très très important. Enfin, pour moi, c'est, si vous voulez, c'est un peu un pouvoir magique. C'est-à-dire que le spectateur doit être pris par la musique comme par un charme.
Des comédies musicales de Demy à celles du Magicien d'Oz, il n'y a qu'un pas. Alors je vous propose que l'on se retrouve maintenant dans une ferme du Kansas, avant que Dorothée ne chausse ses souliers de rubis. Écoutez avec moi Over the Rainbow, une chanson écrite et composée pour le film. Elle est interprétée par la douce voix de l'actrice Judy Garland, qui en est alors au début de sa carrière. Une carrière hollywoodienne qui sera mouvementée, au cours de laquelle on valorisera beaucoup sa voix, mais très peu son physique. Des considérations qui l'amèneront à un état de dépression, jusqu'à la délivrance dans A Star is Born, le remake de George Cukor en 1954. Dans le deuxième remake de ce film, tournée par Frank Pierson 22 ans plus tard, c'est Barbara Streisand qui interprète le rôle principal. Entre-temps, les deux femmes ont offert ensemble une magnifique interprétation d'Happy Days Are Here Again, un soir du Judy Garland Show, une émission musicale animée par l'actrice. C'était en octobre 1963, alors que Garland finissait sa carrière et que Streisand ne faisait que de démarrer la sienne. Un beau passage de flambeau. Et c'est cette musique que je mets ici en regard d'Over the Rainbow.
Somewhere over the lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you.
Même s'il ne s'agit pas d'un film à proprement parler, je tenais à placer ici une musique tirée de la série de Nicholas Winding Refn, Too Old to Die Young. Vous allez donc entendre le titre Mandy de Barry Manilow, qui vient rythmer une scène incroyable de l'épisode 5. Une course-poursuite visuellement sublime, à la longueur excessive, mais passionnante, un peu à l'image de la série de Refn.
Sortie en 1974, la musique que vous allez écouter ne deviendra tube de l'année en France qu'en 1976. La raison de ce succès vient du film « Cria Cuervos » de Carlos Saura. Sorti un an après la mort du dictateur Franco, le long métrage est une allégorie criante de l'état du pays sous son règne. Carlos Saura disait « Nous sommes en train de vivre une période de démolition, donc surgira autre chose. Mon film traite de ce processus de destruction et de mort. » Ainsi, Porqué Tevas de Jeannette, narrant en apparence une histoire d'amour somme toute banale et candide, est devenu symbole des difficultés de la reconstruction espagnole post-franquisme.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Rassemblez les quelques forces qui vous restent pour le clou du spectacle. Car si Gaspard Noé choisit en 2018 de placer le climax au début de son film, nous faisons le choix, nous, de le placer en fin d'émission. Et cela, Monsieur Noé, est irréversible.
Retrouvez la liste de toutes les musiques utilisées lors de cette playlist du dimanche dans la description de l'épisode sur le site de Radio Campus Paris et en podcast. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner à la séance du dimanche, que ce soit sur Spotify ou sur toutes les plateformes de podcast disponibles, afin de ne rater aucune émission. Mais tout de suite, place aux traditionnelles recommandations de notre équipe. Les fêtes de Noël approchent à grands pas, ça n'a échappé à personne, l'occasion idéale de recommander un film de Noël justement. Je vais commencer avec toi, Adeline. Est-ce que tu as un film de Noël à nous recommander autre que la gloire de mon père et le château de ma mère ?
Alors, c'est très rigolo parce qu'en fait, justement, j'en parlais avec ma grand-mère parce que je n'avais pas d'idée. Et on disait que la gloire de mon père, c'était quand même le film favori pour les fêtes de Noël. Mais moi, je me concentrerai sur un film qui s'appelle Les Enfants du Marais avec Michel Serrault, qui est très réconfortant et à l'image des fêtes de Noël, il met du baume au cœur. Et je tiens à faire une aparté, la recommandation de ma mamie, c'est Brigadoum, une comédie musicale avec Jane Kelly, que je vous conseille de voir puisqu'elle est sur la Cinéthèque en ce moment.
Eh bien écoute, merci Madame Boulard.
Madame Balès,
merci.
Rosemary.
Si elle nous écoute, en plus je sais que c'est une auditrice très fidèle.
Une grande fan.
Lucas, toi tu as un film de Noël un peu de notre ambiance à nous recommander. Je sais pas si ta grand-mère t'en a parlé, si vous en avez discuté.
Non, c'est pas du tout un film de Noël, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à choisir des films qui correspondraient à une période particulière de l'année, mais je me prête quand même au jeu et je vous conseille Salo ou Les 120 Journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, qui a d'ailleurs une musique composée par Ennio Morricone, donc il y a quand même un lien avec notre émission. Et voilà, donc une bonne critique de la société bourgeoise et du capitalisme à travers des scènes de torture et de scatophagie. Donc voilà, regardez avec vos petits cousins ou avec votre tante après la bûche de Noël.
Ah bah écoute, je pense que je recommanderai à ma grand-mère et je regarderai en famille.
Enfin, je suis sûr que Rosemary Badet est une grande fan.
Ah, j'en doute pas. Louis, je crois que tu as un truc dans le genre de Pasolini à nous recommander.
Tout à fait dans le même style. C'est vrai qu'à l'approche des fêtes, moi, il y a un film que j'aime beaucoup revoir et dont la belle bande originale a été composée par Danny Elfman, donc le compositeur fétiche de Tim Burton. Et ce film, c'est Édouard aux mains d'argent, avec notamment une scène magique et pleine de poésie dans laquelle Édouard fait pleuvoir des flocons en sculptant la glace, Et apparaît Kim joué par la magnifique Winona Ryder sur la musique Ice Dance. Et voilà, à chaque fois que je revois cette scène, ça me file toujours autant les frissons. Donc je recommande Édouard aux mains d'argent cette période de l'année.
Ok, ben moi je vais finir avec cette petite recommandation avec un film beaucoup plus classique, enfin dans la continuité des films de Noël qu'on peut regarder en famille, donc comme Salo et Édouard aux mains d'argent. C'est La vie est belle de Frank Capra, qui est sorti en 1946. C'est un grand classique aux États-Unis, peut-être un peu moins en France, mais c'est un grand film humaniste qui m'a beaucoup ému quand je l'ai découvert. Et j'adore James Stewart. J'en profite pour recommander Monsieur Smith au Sénat, qui est une autre collaboration entre James Stewart et Frank Capra, qui est dans le genre film de procès, grande plaidoirie, grand discours, et je trouve bien plus passionnant que le récent film d'Aaron Sorkin, Le procès des sept de Chicago. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est disponible sur Netflix. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, puisque les salles vont bientôt réouvrir, à l'heure où est diffusée cette émission, elles réouvrent dans 2 jours, je crois, après 2 mois d'interruption. Donc, est-ce que vous avez des films dont vous allez vous précipiter pour les voir dans les salles à cette réouverture? Lucas, peut-être?
Ouais, bah désolé, je triche encore un peu, mais je vais conseiller un film qui, un film documentaire d'ailleurs, qui aurait dû sortir au cinéma, mais qui n'a pas pu à cause du contexte, mais qui est tout de même dispo sur la plateforme d'Arte jusqu'en février. Et donc c'est Petite Fille de Sébastien Lifshitz. Donc je vous avais déjà parlé de ce réalisateur pour son documentaire Adolescente, qui était aussi sorti en 2020. Donc très belle année pour lui, hein, en tout cas au niveau artistique. Mais donc voilà, dans son nouveau film Petite Fille, il pose un regard sur le parcours de Sacha, qui est une petite fillette de 7 ans, qui en fait est née garçon. Et bah donc on voit que ce qu'une telle situation implique, que ce soit au niveau du regard des autres ou de l'incompréhension de certaines personnes. Donc voilà, on suit comment Sacha et sa famille, donc surtout sa mère, mènent ce combat donc à travers vraiment un docu très beau, très intimiste, avec des scènes qui sont parfois d'une tristesse vraiment absolue. Je pense notamment à une scène au début une séquence au début du film chez une spécialiste, en gros, de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Donc voilà, je vous conseille vraiment, c'est un film important, très bien réalisé, très... Voilà, donc Petite Fille de Sébastien Lifshitz.
Ok, est-ce que vous l'avez vu, Louis, Adeline?
J'ai vu des extraits, j'en ai parlé, devine avec qui, avec Rosemary Ballès, il y a 2 jours, qui l'a vu et qui a trouvé ça très bouleversant puisqu'elle l'a vu sur Arte. Et moi j'avais vu Adolescente, je savais pas que c'était le même réalisateur, mais je pense que je vais le regarder, j'ai très peur. Enfin, j'ai vu des extraits, notamment du coup chez la spécialiste, que j'ai trouvé très touchant après... Voilà, je sais pas si je vais me laisser tenter.
Et tu vas te laisser tenter peut-être par un autre film à la réouverture des salles?
Moi je vais, je pense, mais alors plus tard, parce que je pense qu'il sort le 31, me laisser tenter par le film de Viggo Mortensen, qui va sortir Falling, son premier long métrage qu'il a réalisé. Et bon, alors on n'a pas gagné une rencontre avec lui, mais j'aimerais bien quand même gagner une rencontre avec son film au cinéma.
Écoute, peut-être qu'on l'interviewera dans la prochaine émission de la séance du dimanche, on ne sait jamais. Radio Campus Paris, j'espère que vous pourrez nous organiser cette belle rencontre. Louis, un film peut-être à voir lors de cette réouverture?
Eh oui, parce que malheureusement, j'ai raté l'opportunité de voir Drunk avant le confinement. Depuis, j'en ai entendu beaucoup de bien, et je pense que c'est pas pour rien que Lucas en a choisi une musique pour ouvrir l'émission. Donc je vais foncer, aller le voir et rattraper ça à la réouverture des salles. Et toi, Nico?
Moi, je pense que ça sera Mandibule de Quentin Dupieux, tout simplement. Film que j'attends, qui a été repoussé, puis avancé, puis encore repoussé.
Mais alors, du coup, il sort
quand? Je crois qu'il sort le 16 décembre.
D'accord.
Le mercredi. Voilà, avec ce magnifique duo du Palmachot, que je m'enguis de revoir dans un film de fiction, en attendant le leur. Et la séance du dimanche, c'est donc fini pour aujourd'hui, après cette courte réunion de tous les quatre pendant une dizaine de minutes. On espère que cette émission un peu particulière vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre page Instagram et à vous abonner encore une fois au podcast sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, bref, ce que vous préférez. On a commencé avec une musique d'Ennio Morricone et ce sera avec lui qu'on conclura l'émission avec le thème du Grand Silence, un western nihiliste de Sergio Corbucci. Sur cette ambiance mélancolique et enneigée, on se donne donc rendez-vous le 10 janvier prochain pour la prochaine émission.
Bisous!